Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Fin de semaine du 16 février 2024, ici Alex Bergeron, et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. On va vous retrouver cette semaine avec un spécial tout en cinéma. On va faire ça un petit peu différent. J'ai entre autres pu avoir la chance cette semaine de m'entretenir avec les artisans du film Lucie, Grizzly, Sophie, Catherine Anne Toupin, Guillaume Cyr et Anne Aymon, réalisatrice. On ira entendre ces entrevues-là au courant de l'émission. Film très intriguant qui vaut le détour. Ça, on peut être sûr de ça. Mais sinon, en première partie, un autre film québécois qui a pris l'affiche au courant des dernières semaines. C'est le film Le Successeur, mettant en vedette Marc-André Grondin. Et j'avais comme pas entendu parler plus que ça du film, mais je suis resté surpris parce que c'est pas du tout du tout la tangente qu'on pensait que ça pouvait prendre. Mettons qu'il y a un... Il y a quand même un bon punch à m'amener qui fait que le film change complètement de genre. Mais on va aller tout de suite entendre la bande-annonce du film Le Successeur, qui, je le rappelle, met en vedette Marc-André Grondin.
Elias Barnes, le nouveau prince de la mode.
Police est là. Ton père a été quelqu'un de marquant.
J'ai tout de suite pas pu y ressembler.
Je suis très sensible au fait que vous deviez rentrer rapidement à Paris. Je suis une grande fan.
C'était plus court que je le croyais. Donc, Le Successeur, film coproduction française, belge, québécoise, réalisé par Xavier Legrand. Elias Barnes, nouveau directeur de la maison de la haute couture Orsini, dévoile sa première collection, le mettant en vedette. Le succès est total pour ce créateur d'origine québécoise, néanmoins préoccupé par quelques douleurs au cœur. Héritage, pense-t-il, de son père Jean-Jacques. La médecin rassure le trentenaire angoissé. Il s'agit plutôt d'attaques de panique. Lorsque Jean-Jacques, qui habite la banlieue de Montréal, meurt soudainement, Elias rentre au Québec pour organiser les funérailles et régler la succession de cet homme avec lequel il avait coupé les ponts depuis plusieurs années. Une voisine et le meilleur ami du défunt ont beau vanter ses qualités, Elias est trop ébranlé par la découverte stupéfiante qu'il vient de faire pour leur prêter attention. Et c'est peut-être le bout surprenant et important de ce film-là, cette révélation-là, cette surprise-là qu'on cache. Donc, on quitte l'espèce d'idée que, dans le fond, ça va être un fils qui n'aime pas son père puis qui doit aller l'enterrer. Ça prend une tangente tout à fait particulière. Quelques personnes dans le cinéma ont sursauté à en avoir peur complètement. Et pour ma part, j'avoue avoir fait le saut. Est-ce que c'était le saut parce que des gens ont eu le saut? Peut-être, mais... T'sais, on peut se douter que quelque chose d'un peu effrayant va se produire. Mais ça rentre dans la catégorie suspense. Il y a un certain mystère qui plane autour de ce Jean-Jacques. Qui est-il vraiment, ce Jean-Jacques qui, oui, c'est ça, est vanté par... l'ami de la famille et la voisine, l'ami de la famille étant Yves-Jacques, qui, admire énormément son bon ami Jean, son bon ami Jack, versus un... comment il s'appelle? Elias. En tout cas, il y a un nom québécois aussi, je pense que c'est Sébastien, mais il a son nom d'artiste français, Elias Barnès. Marc-André Grondin, qui, lui, l'a eu pour vrai. Là. Fait que, il n'est pas super tendre non plus quand on parle de lui. Mais là-dessus, je suis d'accord avec les critiques. Le Marc-André Grondin est excellent à peu près de toutes les scènes. Dans à peu près toutes les scènes, j'aurais plutôt dire. Il porte le film littéralement sur ses épaules. S'il n'est pas là... Il n'y a pas de film carrément. T'sais. Oui, les autres personnes sont importantes. Yves-Jacques, évidemment, vu que c'est celui qui va le plus avec lequel il va le plus interagir. Est-ce que c'est un bon film, bon suspense? Correct. Ça fait la job, mais comme plusieurs, pour en avoir un peu discuté avec des gens et avoir lu les critiques aussi, il y a des décisions que le personnage de Marc-André Grondin va prendre, qui sont... Tu sais, en y repensant, on peut comprendre pourquoi il agit de cette manière-là. Tu sais, justement parce qu'il y a du succès. Fait que perdre ce succès-là ou affronter la réalité. Je sais pas. C'est particulier. À la limite, ça tombe un peu dans le vaudeville pour... arriver à une situation finale, disons que c'est un peu invraisemblable, ben ça se peut, mais c'est un peu invraisemblable quand même. C'est dur de ne pas vouloir tout donner non plus. Ça vaut la peine d'aller se faire sa propre opinion, c'est sûr. Ne serait-ce que dans le 3G, le cinéma québécois, comme on le dit, jamais assez. Mais dans ce cas-ci, il faut s'attendre à être surpris. Et justement, peut-être ces mauvaises décisions-là que prend le personnage fait en sorte qu'on reste un peu sceptique. T'sais, oui, il y a toute la phase, est-ce qu'on... qu'on aurait agi de la même façon si ça nous était arrivé personnellement. Peut-être pas non plus. Là, ça reste quand même... Ben, c'est pour ça que je ne vais pas utiliser le terme loufoque. Parce que oui, ça reste un petit peu risible de la manière que, on s'en va vers les éléments finaux. Mais ça reste quand même une belle performance d'acteur dans le cas de Marc-André. Une nomination au prochain gala cinéma ne serait pas complètement impossible non plus, ne serait-ce que pour la détresse dans laquelle il tombe à la fin du film. T'sais, évidemment, Yves-Jacques pense que c'est parce que finalement son fils est triste de perdre son père. Évidemment, spectateur, nous savons que ce n'est pas du tout le cas et qu'il pleure d'autre chose. Mais toute l'espèce de... Je pense avoir bien agi, je pense avoir pris, c'est ça, la bonne décision, mais que finalement, c'est pas du tout le cas et on tombe, dans ce qui devient complètement complètement absurde, ben absurde, devient difficilement explicable. On laisse le film sur une mini fin ouverte qui laisse seulement deux possibilités, évidemment, mais on s'imagine bien quand même comment, quelle sera la fin du personnage, mais tu sais, ça fonctionne, tu sais, c'est pas une complète déception, mais c'est pas non plus, tu sais, il y a une assez bonne intrigue, mais c'est vrai quand même, puis ça, je le concède, que ça devient un petit peu ridicule. Comment ça va se... Ben, comment les décisions du personnage viennent impacter le restant du film. Mais en tant que tel, c'est un divertissement intéressant. Disons ça comme ça. Donc, Le successeur avec Marc-André Grondin, présentement à l'affiche dans toutes les bonnes salles. Au retour, on continue de parler cinéma, on parle du film Lucie, Grizzly, Sophie. Je me suis mélangé dans mes entrevues tout au long. J'essaye de plus le faire. Entendre les entrevues, évidemment. Petite bande annonce et critique. Comme à l'habitude, vous écoutez ce deuxième service cinématographique en cette fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 et de chez 94.3 Valence. Tout de suite en musique. De retour au deuxième service sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de CHIZ. On va aller entendre tout de suite la bande-annonce pour le film qui prendra l'affiche la semaine prochaine. Lucie, Grizzly, Sophie de Catherine Anne Toupin, réalisation de Anne Aymon.
Ils
C'est quoi, ma belle?
Sophie.
Si ma tante te voit traîner ton sac, elle m'entend parler jusqu'à Noël.
Merci.
Ça fait longtemps qu'il n'y a pas vu quelqu'un de nouveau dans la maison. C'est le bon.
Toi, tu restes dans le coin un bout.
C'est vrai que j'ai besoin de changer d'air.
Prends quelques jours de vacances.
Merci d'être là. Pas mal de seul, cette nuit. Ben, je sais pas toi, mais moi, des fois, j'aurais juste envie de...
On se comprend.
Je suis capable de pas avoir une colisse de scène, de pas avoir de job d'appart, j'ai rien, hostie.
Il y a toujours moyen de faire de l'argent.
C'est une période difficile pour Martin.
Quand tu pars?
T'en as pas de rien. T'es comme une ado de 14 ans, mais de 50 ans.
45.
Coudonc, toi... T'es-tu pimp?
Juste le week-end.
Ouais.
Regarde-moi.
Tu me cherches.
Lucie Grizzly, Sophie, qui est une femme traquée et traumatisée, elle cherche à fuir sa réalité, elle atterrit. Bon, le résumé dit un Airbnb, mais c'est une maison de chambre, bed and breakfast dans le film. À des centaines de kilomètres de chez elle, elle y est accueillie par Martin, qui occupe les lieux avec sa tante Louise. Et au fil des soirées bien arrosées, les langues se délient et une troublante complicité se profile entre l'homme et la voyageuse. Je ne lis pas la dernière phrase. Donc, Catherine Anne Toupin, qui est l'actrice principale. Guillaume Cyr, qui joue le rôle de Martin. Lise Roy, qui joue le rôle de Louise. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. La Meute de Catherine Anne Toupin. Version cinématographique, quelques variantes. De toute façon, on en parle avec elle dans son entrevue. appréciation personnelle, j'ai envie de dire que c'était très intriguant. Et il faut accepter la proposition que la réponse va être à la fin. Donc, il y a des indices, oui, qui vont être dissimulés ici et là pour commencer à avoir des pistes de réponse de pourquoi qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle vient faire dans ce coin-là, pourquoi qu'elle est loin de chez eux-mêmes aussi. Il y a toute cette intrigue-là du côté de Sophie. Martin, lui, c'est-tu un vrai fin? C'est-tu un personnage traumatisé? C'est quoi son histoire à lui? Donc, les deux ont une très grande part d'ombre derrière eux. On finit par comprendre ce qui les ronge l'un et l'autre. Peut-être pas dans la bonté et la joie de vivre, disons ça comme ça. Disons qu'il y aura une belle confrontation dans le dernier acte. Mais justement, c'est comme une pièce de théâtre. Il y a trois parties distinctes, j'ai envie de dire. T'sais, la première qui installe les personnages, qui installe l'ambiance. La deuxième partie qui a, certaines confrontations, les personnalités ressortent davantage, ce qui donne droit à quelques tensions, mais malgré tout, la Sophie en tant que telle ne va pas quitter. T'sais, elle va quand même rester dans l'entourage, même si on comprend qu'il y a... Il y a peut-être un petit peu de violence qu'elle ne peut pas supporter, mais en même temps, elle reste quand même collée sur Martin. Fait que, pour essayer de ne pas trop en dire non plus, parce que c'est ça, c'est comme je le disais, il faut accepter cette proposition-là que la réponse ne sera pas dès le début. Et ça, pas qu'on le voit dans d'autres films, mais il faut accepter que ça va prendre du temps. T'sais, il faut installer les personnages, l'ambiance, faut installer la pièce. Littéralement, faut installer l'environnement. Et une fois que cet environnement-là est bien compris, là, on peut dévoiler les motifs de tout le monde. Qu'est-ce qui fait que telle personne est là? Pourquoi telle personne parle avec telle personne, etc., etc. Donc, le but, au final... c'est que les gens restent surpris. T'sais, ça, dans ce cas-ci, s'il y a un film à suspense qui va prendre l'affiche, c'en est bien un. Puis comme également, j'en parlais avec Catherine Toupin dans l'entrevue, t'sais, c'est pas un genre de film qu'on voit souvent fait au Québec. T'sais, justement, de faire un suspense que toutes les pistes de solutions ont arrivé à la fin, puis voici les morceaux du casse-tête qui manquent. Fait que, tu sais, pour prendre cet exemple-là, pour prendre l'exemple du casse-tête, le film installe, on fait le contour du casse-tête et au final, on finit par assembler les derniers morceaux et comprendre le tout. Mais je laisse Guillaume Cyr, acteur du film, décrire davantage le film et parler de son expérience. Entrevue réalisée avec lui cette semaine. Rôle de Martin?
Oui.
Pour, je veux bien dire, Lucie Grizzly.
Sophie. Voilà.
T'étais dans la pièce originale?
Oui.
Comment t'as abordé la version cinématographique de ce personnage-là?
Ce qui était bien, c'est que la pièce était jouée au Théâtre La Licorne à Montréal, qui est une salle déjà intimiste. Donc, le niveau de jeu était quand même assez déjà réaliste. C'est pas comme si on jouait sur un grand plateau. Là, mm-hmm. Il aurait vraiment fallu adapter le niveau de jeu. Et il s'est passé quand même beaucoup de temps entre la pièce et le film. Fait que c'était le fun parce qu'on a amené notre background de personnage dans le film, mais ça faisait assez longtemps pour qu'on commence le film assez vierge avec la vision d'Anémon et le traiter comme une nouvelle œuvre complète, en fait.
Y a-t-il une grosse différence? Mettons que quelqu'un qui n'a pas vu la pièce, bon, je fais partie malheureusement, mais quelqu'un qui n'aurait pas vu la pièce puis qui arrive au film, est-ce que ça va être
similaires? Est-ce qu'il y a des grosses différences?
Catherine Anne te dirait que c'est complètement différent.
Okay.
Moi, ma vision d'acteur, je trouve quand même qu'on est dans la même histoire. Mais oui, au niveau de la forme, ça change beaucoup parce qu'au théâtre, on était seulement 3 acteurs. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient évoquées ou nommées. Alors que là, en film, ben, on peut le montrer, on peut le... Donc, il y a beaucoup plus de personnages. Donc, oui, dans la forme, ça change. Mais tant mieux, en fait, si les gens n'ont pas vu la pièce, parce que vous connaissez pas le punch.
Effectivement, c'est vrai. Puis justement, parlons-en sans trop n'en parler non plus, oui. Mais il arrive vraiment à la fin du film. Oui. Puis j'ai envie de dire, la première bonne demi-heure, même peut-être le premier deux tiers, on sait pas où que ça s'en va.
On sait pas où ça s'en va, sauf qu'on le sait que s'il va se passer quelque chose. Dans le sens que je pense que quand même rapidement, on se demande. En fait, c'est l'histoire de Sophie qui vit une espèce de traumatisme à Montréal et qui décide de fuir la ville pour s'en aller en région et aboutit dans un comme bed and breakfast. Ouais. Où mon personnage habite et s'ensuit un trailer à huis clos. Et où je m'en vais avec ça? Oui, c'est ça, c'est qu'on le sait. On le sent dès le départ que c'est très tendu entre Martin et Sophie. Qu'est-ce qu'elle fait réellement là? Lui, c'est qui réellement? Donc, oui, en effet, on se demande où ça s'en va, mais on savoure l'ambiguïté de leur relation quand même dès le départ. Mm. Fait que on n'est pas laissé à néant pendant le deux tiers du film en se demandant, coudonc, c'est quoi ce film-là? Mais ouais.
Quand tu l'as lu la première fois, qu'est-ce qui t'a fait dire tout de suite, « Ah, c'est sûr que je veux être là-dedans, je veux absolument faire partie de ce projet-là? »
Bien, déjà, on me l'avait présenté comme quoi Catherine Anne Toupin l'avait écrit pour moi. Fait que là, déjà comme acteur, ça part du bon côté, disons. C'est comme un no-brainer d'embarquer dans le sujet. Même qu'à la première lecture, quand j'ai réalisé l'ampleur du défi, puis le niveau de violence que ça impliquait, puis le niveau d'implication émotionnelle que le rôle impliquait, au contraire, même, ça a même mis un frein à mon enthousiasme. J'ai comme fait, hey boy, OK, attends, dans quoi je m'embarque? Sauf que l'œuvre était trop importante, le texte était trop important, le sujet était trop important. Fait que ça a comme fait, OK, let's go, on y va.
Ben, je pense même, on en parle en fin de semaine, tu le disais, c'est ça, c'est qu'il y a dans ce personnage-là, surtout le tien, une violence qu'on voit et qu'on comprend aussi à un certain moment donné. Où tu vas comme acteur chercher ça, cette colère-là, si on veut?
C'est sûr que c'est là où le travail de la pièce a énormément servi. Si ça avait été un film comme tous les autres, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de répétitions avant, puis souvent, on trouve notre personnage au fil des premières journées de tournage. Là, alors, on avait 3 ans de répète dans le corps. On l'a trouvé en salle de répétition du théâtre, cette violence-là, tu sais. Mais oui, faut aller la chercher, puis on dirait que... Je suis vraiment pas de l'école de pensée de revivre des drames personnels,
ouais,
des affaires de même. Je suis pas un gars de méthode acting, pas du tout. Mais elle existe en dedans de nous, cette violence-là, même que le film en parle, en fait. Cette petite violence ordinaire-là dans laquelle on subit et on fait subir à tous les jours sur les réseaux. Fait que elle est pas si loin que de nous, cette violence-là.
Étais-tu au courant avant d'être... Pas nécessairement dans le projet, mais l'avais-tu... Sans nécessairement l'avoir vécu personnellement, mais la voyais-tu, cette violence-là, sur les réseaux sociaux?
Oui, bien sûr. Bien sûr, on est sur les réseaux tous les jours. Là, le nombre de commentaires violents, puis la photo de profil, c'est une grand-maman avec son chat, puis un arc-en-ciel. Tu fais comme... Puis je pense que tout le monde l'a vu. Cela dit, dans le film... je pense que Catherine Anne est allée voir des choses pour faire sa recherche, dont ça, je savais pas que ça existait.
Okay.
À tel point, tu sais, le fin fond de Reddit, puis moi, je vois plus la violence de Facebook puis d'Insta, là, tu sais. Mais Reddit puis Twitch, puis dans le fin fond, là, je pense que Catherine Anne a vu des affaires. Ce qui est dans le film, c'est les affaires les plus soft.
Ouais, non, il y a. C'est assez. Ça peut venir. C'est le dark web, pas pour rien, non plus. Puis. Comment est-ce que tu dirais, toujours sans vouloir de donner la fin, mais comment ton personnage va vivre après ce film-là, j'ai envie de dire, parce qu'il arrive, de quoi?
Wow,
comment lui va réagir à ça?
Eh boy! Ouais, en effet, c'est très dur de répondre à ça sans divulguer quoi que ce soit. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est je pense que la rencontre de Martin et Sophie vont les changer les deux à tout jamais. Mm. Oui, je pense que c'est... Écoute, il n'y aura jamais Lucy Grizzly 2.
Non, ça.
mais en effet, je pense que les personnages fassent un maudit mur, puis je sais pas à quel point tu peux t'enlever de ça, en effet.
OK. Excellent. Qu'est-ce qu'on souhaite en terminant pour Lucy Grizzly Sophie?
On souhaite une très belle sortie en salle, parce qu'on a fait un très bon trailer, un peu à la Misery, Fatal Attraction.
C'est vrai.
Anne et Mom parlait beaucoup de Gone Girl quand on le tournait dans le côté léché, esthétique, mm-hmm. très, très tendu. Moi, je souhaite que le film soit vu puis que les gens passent un très bon moment au bout de leur siège en le voyant.
Merci, Guillaume.
Plaisir.
Caravane, premier extrait du prochain album qui est sorti dernièrement sur les ondes de CFAC 88.3 et de Chiz 94.3. Sans transition, passons tout de suite à la seconde entrevue réalisée avec Anne Aymon, la réalisatrice du film qui est tombée dans le projet en tant que lectrice et qui finalement, on lui a confié la réalisation, mais elle le racontera mieux que moi, évidemment. Anne Aymon, tout de suite.
Anne Aymon, réalisatrice, bonjour.
Allô.
Avais-tu vu la pièce avant d'avoir embarqué dans le projet cinéma?
Non, j'en avais entendu parler beaucoup de la pièce. J'étais à l'étranger quand ça jouait à Montréal puis en tournée, fait que j'avais pas pu la voir. Et c'est la productrice du film, Félix Frappier, qui m'a approchée pour lire le scénario, parce que Catherine Anne Toupin, qui a écrit la pièce, était en train de travailler une première version du scénario.
Okay.
Puis, c'était une lecture en tant que vraiment juste comme conseillère, là, t'sais, entre collègues, juste comme est-ce que ça marche ou ça marche pas. Puis justement, il cherchait quelqu'un qui n'avait pas vu la pièce pour avoir une espèce de un regard sur le film, t'sais, sur qu'est-ce que le film pourrait être. Puis, moi, quand j'ai lu le scénario, j'étais quand même happée, pour être honnête. Là, j'étais comme, hein? Qu'est-ce qu'elle veut, cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'étais comme... Je me suis posé des questions tout le long de la lecture. J'étais quand même envoûtée. Puis quand je suis arrivée à la fin, c'est un film à punch, là, j'ai compris qu'en plus, il y avait un sujet, tu sais, comme d'actualité quand même très important. Et ça m'a beaucoup intéressée. J'ai trouvé ça très habile de le traiter aussi par le thriller psychologique, cette histoire-là. Et voilà, je suis allée livrer mes commentaires, puis ils m'ont offert de le réaliser, puis j'ai dit oui.
OK, quand même, parce que c'est ça, la dernière production qu'on a vue, c'était Jeune Juliette. Et là, évidemment, avec celui-là, ça... Lucy Grizzly Sophie, on est dans un genre totalement différent. Est-ce que tu l'abordais de cette manière-là, de le vouloir, le faire complètement différent?
Oui, moi, j'aime pas ça. C'est mon cinquième film, puis j'aime vraiment pas ça, faire le même film d'une fois à l'autre. Il y a des cinéastes là, qu'on reconnaît là, immédiatement, là, une image, puis on fait « Ah, c'est un film de tel réalisateur, réalisatrice. » Moi, je suis pas comme ça. J'ai un cerveau qui fonctionne différemment. Je suis curieuse. J'ai comme envie d'essayer plein de choses dans la vie. Cependant, j'ai tendance, je remarque là, maintenant, à faire un film dark, puis un film léger, un film dark, un film...
Okay.
Parce que je pense que sinon, peut-être que ça serait trop dur, là, c'est parce qu'on passe énormément de temps dans l'univers de ces personnages-là. Fait que quand Lucy Grizzly Sophie est arrivée à moi, j'ai vu l'occasion aussi de faire un thriller psychologique, ce qui se fait très peu au Québec.
Mm-hmm.
Ça manque, à mon avis. Et puis, on dirait que, oui, c'est différent, mais ça reste... Pour moi, il y a comme des thèmes communs sur des personnes, des personnages qui cherchent comment vivre, tu sais, qui vivent dans une société tough, en fait, qui vivent dans un monde... Tu sais, Jeune Juliette, c'était léger, c'était comique, tout ça, mais c'est quand même une petite fille de 14 ans, pas bien dans sa peau, qui se fait niaiser par tout le monde. Tu sais, c'est toujours des personnages un peu écorchés, tu sais, je dirais, d'un film à l'autre. Nelly, sur Nelly Arcand, on n'en parle même pas, là.
Est-ce que... Est-ce que tu avais connaissance de cette violence-là sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général? Parce que dans ce cas-ci, c'est pas tout à fait un réseau social. Bon, en tout cas, oui. On va pas dire ça comme ça, mais est-ce que tu en étais consciente que ça existait?
Complètement. En fait, moi, j'ai quitté, c'est drôle, hein, je suis partie de tous les réseaux en 2016 parce que quand le film Nelly, sur Nelly Arcand, est sorti, moi, je me suis ramassée de la haine en ligne. Là. Vraiment. Là, dans, ça n'a pas rapport. Là, dans mon Messenger, dans mes messageries privées, Twitter, tout ça, des trucs vraiment misogynes, là, je te dirais, là, de « t'es-tu une pute ou une réalisatrice? » Parce que Nelly Arcand avait été escorte. Puis il y avait un petit côté quand même un peu sulfureux au film. T'sais. De la nudité, de la sexualité, tout ça. Je ne sais pas par quel amalgame bizarre il y a du monde qui se sont permis de venir m'insulter. Mais juste ça, tu sais, moi, je suis pas connue, là, dans le sens... Puis j'ai rien fait de... Je brasse pas de l'air, tu sais. C'est-à-dire, je suis pas... Je me dis, imagine si t'es une femme qui prend position, là, encore plus... plus fortement dans le monde, je pense que tu dois te faire ramasser, tu sais. Fait que je suis partie de là, de tous les réseaux, parce que je suis trop sensible, ça m'atteignait. Tu sais, même si je voulais pas me laisser atteindre, ça m'atteignait. Et tout ça pour dire que ça, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Puis quand Catherine Anne a écrit la pièce, c'était il y a presque 10 ans aussi. Et maintenant, moi, pour réaliser le film, j'ai dû passer beaucoup de temps sur les Reddit, 8chan, 4chan, des trucs où tu veux pas nécessairement aller. Et pour constater que ça fait peur. Tu sais, c'est troublant, là, pour vrai. Là. En plus, c'est addictif. Tu sais, plus ça va, plus tu creuses, plus tu dis, aïe, lui, il est fou. Fait que là, tu cliques sur son profil, puis là, tu vas voir qu'est-ce qu'il dit. Puis, tu sais, dans le film, il est question de misogynie, mais dans ça, il est question d'homophobie, il est question de racisme, il est question de. Tu sais, c'est les tréfonds du bas-fond, là, de la haine là, gratuite. Excuse-moi, je parle beaucoup, là, mais pendant que je faisais le film, pendant qu'on faisait la conception du film, tu sais, il y a des moments très violents dans le film où des collègues masculins me disaient « T'es sûr que c'est pas un peu too much, tu sais? » C'est pas ce que je dis, mais je dis que ça vient nous chercher. C'est un côté tellement laid qu'on veut pas imaginer qu'il existe. Tu sais, moi, c'est ça, mon impression. C'est dur de parler du film sans trop dévoiler des punchs, mais on n'a presque rien inventé. Pour ce qui est des niveaux de violence, là, même dans les animations puis les jeux vidéo là, qu'on voit dans le film, on a tout tiré ça de la réalité. Je pense que ça dit qu'on vit dans un monde très difficile, très confrontant, très insécurisant. Les guerres, les changements climatiques, les pandémies, les crises économiques, puis qu'on capote, puis qu'au lieu d'être amicaux, on se réfugie comme un peu, je pense. On essaie de protéger notre petit terrain. Ouais.
Tu l'as mentionné à la lecture du texte, ça prend avant que le punch arrive, puis tout ça. C'était-tu un défi au moment de réaliser ça, on va donner quelques indices, mais la piste, la clé pour résoudre le film arrive tard, entre guillemets. Est-ce que c'est un défi?
C'est un gros défi. C'est un gros défi qui te suit du début à la fin. T'sais, c'est un slow burner, comme j'arrive pas à trouver. J'aurais dû chercher une traduction de slow burner. Mais c'est un gros défi de réalisation, défi de jeu, défi de montage. Après, ça te suit tout le long. Et puis, pour moi, ça va rester un défi du film, en fait. Pour moi, c'est t'aimes ou t'aimes pas. T'sais. Okay. Après, s'il y a des gens qui sont comme « c'est long, je m'impatiente », ben partez, puis tant pis pour vous. T'sais. Ben non. J'espère qu'ils vont rester. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu inhérent à ce genre de film-là. T'sais, c'est comme, faut que tu t'accroches, faut qu'on pique assez la curiosité. Puis c'est pour ça qu'on a mis des flashbacks. T'sais, on est dans la tête d'une femme traumatisée. Puis il faut juste chercher à savoir pourquoi. T'sais. Mais on a eu des visionnements, tests, t'sais, avec monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas vu la pièce, tout ça. Puis ça reste un plaisir de cinéma, tu sais, quand les gens arrivent à la fin, puis que c'est comme « Ah, ben, tabarouette! » Tu sais, que tu l'entends, genre, dans la salle, le monde crie, t'es comme « Ah, bon, ben, c'est super! » C'est ça aussi, le cinéma, tu sais, c'est de se laisser manipuler, puis de jouer le jeu, t'embarques ou t'embarques pas, tu sais.
Je dois avouer que j'ai eu cette réaction-là, moi-même, au visionnement. Qu'est-ce que les gens disent jusqu'à date?
Ben, tu sais, ça sort, là. Fait que là, ce qu'on a, c'est des échos de journalistes, des échos de gens qui ont vu le film. Ce que j'entends, c'est que ça suscite des discussions, en fait, parce que c'est des chicanes, des engueulades même dans les couples. Parce qu'en fait, c'est que tu termines le film en n'étant pas certain de pour qui tu prends. C'est-à-dire,
Il y a
pas mal de monde qui sont comme « Ouf, qu'est-ce que j'aurais fait dans une telle situation? » Est-ce que la vengeance est une bonne solution? Est-ce que la haine est une bonne solution? Qui est le bourreau? Qui est la victime? Ça suscite des engueulades. Pour toi, c'était clair?
Oui, puis non. J'ai envie de dire, lui, quelle sera sa réaction à lui après? Ça, c'est le point
d'interrogation. Qu'est-ce que ça va engendrer?
Qu'est-ce que ça va engendrer? Ouais. Ça serait ça, le point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on souhaite en terminant au film?
Qu'est-ce qu'on lui souhaite au film? Moi, ce que je souhaiterais honnêtement, vraiment, sincèrement, c'est que les gens aillent le voir pour plein de raisons, pour le sujet d'actualité. Important, aller le voir avec vos ados, genre les enfants, les enfants, non, pas les enfants. Les adolescents. Je dirais 14 ans et plus, c'est bien correct. Là. Je pense que ça serait important. Je pense qu'il y a peu de thrillers québécois. Mm. C'est un film qui est populaire, qui ne boude pas son plaisir. Là. Moi, je suis allée revoir pour le tourner, je suis allée revoir des Misery, des films de fin 80, début 90, là, qui ont marqué quand même là, le cinéma. Gone Girl de David Fincher. Je pense que c'est comme, je l'espère en tout cas, divertissement intelligent. Fait que ce que je souhaiterais, c'est que le monde aille le voir en salle, ensemble, justement pas tout seul derrière un écran. Ça mène à,
ça mène à
des mauvaises choses.
Ouais. Mais c'est des inspirations, tu t'en imprègnes de ces films-là, est-ce qu'il y a une touche, que on peut dire, que tu rajoutes au film avec Gone Girl, entre autres, ce que tu as nommé?
Ben oui, moi, c'est... Oui, tu sais, il y a plein de... Il y a des petites références directes, même hommage à Hitchcock, là, tu sais, à Psycho dans le film, certains plans, la caméra qui tourne.
Oui, ben oui,
il y a vraiment des hommages ou des références directes. Mm-hmm. C'est un genre que j'apprécie beaucoup. Le suspense ou le thriller psychologique qui a été longtemps un peu boudé. C'est comme si on dirait qu'au Québec, on n'avait pas le droit de faire ce genre de film-là ou on se donnait pas le droit de le faire.
Puis
je vois pas pourquoi. Il y a des films marquants, là, tu sais. Même des films, tu sais, j'allais réécouter, je sais pas si t'as vu, Attraction Fatale, Fatal Attraction, là. Tu sais, la fille qui fait bouillir un lapin. T'sais, c'est comme un classique d'un film des fins 80, là. Ça a marqué, tu sais, le cinéma, c'est du... presque du B-movie, j'ai envie de dire, mais avec une qu'il faut redécouvrir, je pense, une qualité de divertissement populaire, à mon avis.
Allez, bon, merci.
Merci.
Ouais, des pubs, c'est plat. Mais les nôtres sont bonnes et nos commanditaires sont vraiment géniaux.
88.3,
c'est fac.
On le sait, tu passes ta journée sur les réseaux sociaux. C'est clair.
Ah ouais, prends 5 minutes puis viens nous voir.
C'est fac.
88.3.
Les samedis et dimanches, dès midi,
Weekend C'est fac.
La bonne musique, la bonne humeur.
Une grosse voix qui te dit à quel point c'est le fun.
On réinventera quand même pas un show de radio de fin de semaine, mais on te donnera pas de t-shirt.
Les Weekends C'est fac.
Ça part ici.
C'est fac. 88.3.
On te l'avait dit que nos bébés étaient pas mauvaises.
88.3.
C'est fac.
C'est toujours le spécial Lucie Grizzly Sophie dans le deuxième service du réchaud sur les ondes de CFAC 88.3 et de Chiz 94.3. J'ai gardé pour la fin la scénariste et comédienne principale. Le film prend l'affiche le 23 février prochain. Voici mon entrevue avec Catherine Anne Toupin. Catherine Anne Toupin, actrice principale et scénariste de Lucie Grizzly Sophie. Bonjour.
Allô, mon cher.
Est-ce que ça a été un beau défi d'adapter le scénario pour le cinéma?
Ça a été vraiment le fun et très excitant. C'est mon premier scénario de film. Dès que j'ai su qu'on allait faire un film, j'ai pris la pièce et je l'ai jetée aux poubelles. Et j'ai voulu...
Carrément.
Oui, oui, parce que ce sont deux médiums tellement différents, la scène... et l'écran, qu'on n'a pas le choix de raconter cette histoire-là d'une autre façon.
Okay.
De rentrer là-dedans à travers les images, à travers l'émotion, à travers les yeux, plutôt qu'à travers les mots. Le théâtre, c'est les mots, c'est les dialogues. Le théâtre, c'est comme un plan large, du début à la fin, alors que le cinéma vient chercher des inserts, vient chercher une main, un œil, un paysage. Et il faut donc repenser la façon dont on raconte cette histoire-là.
Okay.
Avec Anne Aymon, qui est la réalisatrice, on a beaucoup discuté quand elle est arrivée avec la première version pour se joindre au projet. Mm-hmm. Puis ensemble, on a avancé pour mettre des images dans ce scénario-là, pour mettre sa vision, pour s'inspirer de films aussi qui existent déjà, s'inspirer des codes de genre du cinéma. Donc oui, ça a été vraiment trippant, cette adaptation-là.
Ben c'est ça, on en parlait avec Anne. Tu sais, il y a pas beaucoup de thrillers québécois.
Non.
Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce genre-là?
C'est mon genre préféré. Depuis que je suis toute petite, j'écoutais avec ma grand-mère, tu sais, les films noirs des années 40 américains, ah ouais. Les Hitchcock, Otto Preminger, The Postman Always Rings Twice. J'aime le thriller. Mm-hmm. Et puis, c'est une forme qui était très, très populaire dans les années, mettons, 90. Là. Il y en avait plein, ouais. Surtout américains. Mm-hmm. Puis, on en a vu moins ces dernières années. Puis moi, j'ai été bercée par ça à l'adolescence. Puis j'avais envie d'aller là. Mm. Puis aussi de proposer une œuvre qu'on voit pas au Québec souvent, ouais. comme tu l'as dit.
Est-ce que les gens qui ont vu la pièce vont voir une nouvelle version, si on peut dire, dans le film?
Absolument. C'est sensiblement la même histoire,
oui.
Mais c'est raconté différemment. Et on en apprend beaucoup plus sur les personnages, okay. Sur leur passé. Je dirais que les personnages sont pas tout à fait pareils. Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil dans ce qu'ils ressentent, dans leurs émotions. Le film, je dirais qu'il est... Laisse-moi trouver les bons mots. La pièce de théâtre était une montagne russe,
okay.
D'émotions.
Okay.
Le film est comme un élastique qu'on étire tranquillement, puis ça gronde. Puis à un moment donné, on se dit, cet élastique-là, il va péter, et c'est ça qui arrive. Mm. Donc, c'est deux énergies complètement différentes.
Tu as dit souvent aussi en entrevue pour faire pour la pièce, du moins, tu avais fait beaucoup de recherches, puis justement, tu avais
oui.
eu à fouiller l'Internet, entre guillemets. D'où c'était partie cette interrogation-là, peut-être, pour les commentaires en ligne, ce genre de phénomène-là?
C'est parti de ma sœur. Ma sœur a un post-doctorat en communication avec okay. Une spécialisation dans les médias technologiques.
Okay.
Et c'est elle qui, la première fois, m'a parlé de ça. Parce que moi, j'étais pas au courant. Tu sais, en 2013-2014, on était très peu au courant mm-hmm. de tout ça. Aujourd'hui, c'est différent. Et elle m'a invité à... En fait, elle m'a dit, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant pour toi là-dessus, oh. pour une œuvre.
OK.
Puis effectivement, elle avait vachement raison. Fait que oui, je dois d'ailleurs le personnage de Sophie s'appelle Sophie parce que ma sœur s'appelle okay. Sophie Toupin. Ah, ça c'est un scoop, man.
Pour vrai?
Je l'ai pas dit. C'est un scoop. Radio étudiante. Hey, j'ai fait de la radio étudiante.
Pour vrai?
Ouais, oui. Quand j'étais à l'université, j'avais une émission, je trippais au bout.
Ok.
Je te dis ça de même.
On faut partir à quelque part.
Ben okay. Non, mais c'est fun, la radio étudiante.
Oui, non, ça c'est... On s'entend là-dessus. J'avais lu que, justement, sur ces commentaires-là, il y avait eu aussi, avec Unité 9, je pense, il y avait
oui,
eu...
Oui, oui, oui.
Tu racontais, c'était soit Marie ou c'était soit ton personnage,
non, c'est Guylaine Tremblay. Marie Lamontagne.
C'était Marie Lamontagne.
Oui, oui. En fait, ça, c'est ce qui m'a donné envie à propos d'une femme qui exprime sa colère. C'est-à-dire que dans la quatrième saison de Unité 9, pour la première fois, le personnage de Marie Lamontagne, qui, après avoir vécu les pires sévices mm-hmm. possibles et imaginables, elle a réagi avec colère et violence à ce qui lui arrivait. Elle a poussé des gens en prison, elle a crié, elle était fâchée. Mm. C'était la première fois qu'elle n'était pas une victime assise dans un coin en train de pleurer ou traumatisée par ce qui lui arrivait. Et le public québécois s'est rebellé contre ça. Le public québécois a refusé qu'une femme réagisse avec colère à ce qui lui arrive. Alors qu'un homme, peut enfermer 20 personnes dans son sous-sol et les torturer, puis on va trouver que c'est bon, là. On va trouver que c'est un bon film. Pas dans la vie, là, je précise. Je parle dans une œuvre de fiction. On va se dire, hey, crime, c'est bon, hey, c'est un serial killer, on aime ça. Mais quand c'est une femme qui refuse qu'on la fasse taire, qui refuse de se faire jeter de son piédestal et d'être une victime, ça, on n'est pas bien avec ça.
Est-ce que c'est un moteur pour le personnage de Sophie de « Je me laisserai pas faire »
C'est exactement ça. Okay. Je pense qu'il y a évidemment cette affaire-là de « Vous n'allez pas détruire ma vie. Vous n'allez pas détruire ma carrière. Vous n'allez pas détruire ce que j'ai passé les, je sais pas, 20 dernières années à bâtir en un claquement de doigts. Il y a aussi le fait que ce qu'elle a vécu, toute cette violence qu'elle a reçue, a désagrégé son humanité. C'est ça qui se passe en ce moment dans notre société. Nous sommes tous en train de perdre et d'être désensibilisés par une violence ambiante, que ce soit dans les mots, que ce soit dans la façon dont traite les autres, que ce soit dans notre rapport aux gens qui nous entourent. Il y a moins de respect, moins de décorum, moins de curiosité envers l'autre. Puis cette femme-là, elle a perdu une partie de son humanité. Et c'est pour ça qu'elle met le doigt dans l'engrenage de la violence.
Il y a eu aussi, la question autour du titre, parce que la pièce de théâtre, c'était La Meute, mais peut-être pour pas d'association avec le groupe de droite, mais ça a-tu été un gros questionnement? Est-ce qu'on change le titre? Est-ce que ça a été un...
Non, ça n'a pas été un gros questionnement. Okay. Ça a été...
Ça n'a aucun rapport avec le groupe.
Non, ça n'a aucun rapport, mais légalement, on ne pouvait pas.
Ah oui?
Bien, légalement et au niveau de l'image, c'était un réel problème. Donc, dès le départ, on savait qu'on allait changer le titre. C'est pas... On n'a pas eu le choix.
OK. On le voit, l'ambiance en général n'est pas tout le temps bonne. Puis les réseaux sociaux amplifient ça.
Les amplifient grandement.
Est-ce que... ça devenait facile de vouloir aborder ce sujet-là parce qu'on n'en parle pas plus que ça autrement, sinon, j'ai envie de dire.
C'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça, alors que c'est, je veux dire, pour moi, c'est un des grands enjeux de société en ce moment-là. Tu sais, je te dirais qu'au départ, là, ça fait longtemps, là, on parle de 2015, là, quand j'ai écrit ça, personne n'en parlait. Donc oui, il y avait un désir de mettre en lumière quelque chose qui était peu connu par le grand public. Mais il y avait surtout le désir de conter une bonne histoire, divertissante, avec des revirements puis des punchs. Parce que moi, comme spectatrice, j'aime ça. Puis je pense que les gens à la maison, puis les spectateurs, ils aiment ça aller au cinéma puis être divertis et surpris. Parce que je suis convaincue, je mettrai 20$ là-dessus, qu'il y a plein de gens, s'ils vont au cinéma, ils vont arriver à cette finale surprenante, puis ils vont faire « Eh, non! Mais voyons donc, je l'avais pas vu venir! » Et ça, c'est le fun! C'est un grand plaisir! C'est « Luke, I am your father! » Tu comprends-tu je veux dire? C'est un punch!
J'aimais l'image que tu avais de l'élastique qui est tellement tendu jusqu'à la fin. C'est un défi, ça, de justement dire au spectateur, fais-moi confiance, il y a quelque chose qui s'en vient. Comment tu l'as abordé en l'écrivant, peut-être?
Bien, tu sais, c'est une forme, c'est un slow burn qu'on appelle au cinéma. C'est-à-dire que C'est un film qu'on sait dès le départ que quelque chose nous est caché, que quelque chose gronde. Tout au long du film, il y a des petits indices. Mm. Les gens qui ne savent pas c'est quoi les revirements, s'ils le réécoutaient, ils verraient tous les indices qui leur sont donnés.
Oui, j'avoue, oui.
Mais là, quand tu le sais pas, le plaisir, c'est d'essayer de trouver, d'essayer. Puis j'envoie les gens sur des pistes, des fois une vraie piste, des fois une fausse piste. Mmh. Et c'est ce plaisir-là, comme spectateur, de devoir rester allumé, d'écouter du début à la fin avant d'avoir une réponse. Tu sais, en ce moment, je pense qu'on est rendu à une capacité d'attention de 47 secondes. En moyenne, l'être humain, et ça a beaucoup baissé.
C'est très court, c'est très court.
C'est très court. Moi, je vous dis, non, allez vous asseoir au cinéma, donnez-moi une heure et demie, ça va valoir la peine.
Ça peut pas être un meilleur élément de vente que ça, mais qu'est-ce qu'on souhaite sinon en terminant pour le film, Lucie Grizzly-Sophie?
J'ai un grand désir de que ça ouvre une conversation. J'ai envie que quand les gens sortent de la salle, ils se retournent vers la personne qu'ils connaissent, là, tu sais, leur chum, leur blonde, leurs parents, leurs enfants, leurs amis, puis qu'ils en parlent, qu'ils se posent des questions. Toi, ça t'es-tu déjà arrivé? Connais-tu quelqu'un? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Okay. Ouais. Pour qui tu prends? Qu'on ouvre une... je pense que c'est la meilleure façon de changer les choses.
Il y a eu quelques visionnements avec Anne. On a parlé un petit peu. Les réactions à date, qu'est-ce que tu as entendu de ça?
Bien, ça se passe super bien. Ce que je sais, c'est que le public... Parce que c'est un film que moins t'en sais, plus que tu as du fun à aller le voir.
C'est vrai.
Et tous les visionnements qu'on a fait avec les publics tests qu'on appelle, immanquablement, on arrive vers la fin puis on entend des « Eh! Ben voyons donc! Oh non! Ça, c'est toujours très, très satisfaisant.
Catherine Toupin, merci beaucoup.
Merci à toi.